RCF.
Dans un monde où les progrès de la médecine n'ont cessé de croître, la santé tend à devenir l'état normal de la vie d'une personne. Puisque l'on nous promet la santé, la maladie apparaît désormais comme un intrus, et devant cet état jugé anormal, voire scandaleux, on sommera les médecins de nous guérir. La demande de guérison a toujours existé, mais dans notre monde contemporain, monde de la performance, elle devient presque un impératif. Cette demande de guérison se retrouve à la fois dans la sphère médicale, mais aussi dans le monde chrétien où cette thématique est très présente. Pour parler de ce thème de la guérison, je reçois cette semaine Jean-Marie Guelette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec Laurent Denisot, qui est anthropologue, co-auteur du livre « Guérir, une quête contemporaine » paru aux éditions du Cerf. Vous êtes prêtre, dominicain, médecin. Vous dirigez le Centre interdisciplinaire d'éthique de l'Université catholique de Lyon. Alors, est-ce que notre rapport à la maladie est en train de changer radicalement ?
Il est certain que la médecine a connu un virage, un tournant majeur de son histoire. Alors, c'est pas tout à fait aujourd'hui, mais c'est quand même relativement récent. C'est dans les années 50, quand sont arrivés sur le marché des médicaments, j'aurais tendance de dire, des médicaments enfin efficaces. C'est-à-dire que c'est quand même assez impressionnant de constater qu'en à peu près en 10 ans, on a vu arriver à disposition des malades l'insuline, les neuroleptiques, les premières chimiothérapies anticancéreuses et les antibiotiques. Donc voilà, 4 classes de malades, de médicaments qui attaquaient, si on peut dire, 4 types de maladies qui jusque-là échappaient complètement au pouvoir de la médecine. Et donc depuis cette époque-là, évidemment, nous n'avons cessé de faire des progrès du point de vue médical. Et aujourd'hui, on peut être un peu dans l'idée que voilà, toutes les maladies sont à portée de pouvoir médical, et ceci change, je pense, considérablement le rapport que nous avons tous à la maladie, et peut-être plus largement d'ailleurs le rapport que nous avons tous à ce qui est de l'ordre de l'épreuve dans la vie.
Donc il deviendrait aujourd'hui anormal d'être malade, mais aussi de vieillir, de mourir, une difficulté à consentir à cette finitude.
Oui, c'est anormal, et puis c'est envisagé comme une maladie, et une maladie est envisagée comme quelque chose que l'on peut régler. Donc je crois que c'est ça qui est très nouveau, c'est que aujourd'hui, quand on est malade, eh bien, on aspire à ce que ça s'arrête. Enfin, on pense que ça va être une parenthèse dans la vie qui va trouver une fin. Or, jusqu'à une date relativement récente, c'était plutôt le fait d'être malade qui était la condition commune de tout le monde. Enfin, tout le monde avait un truc qui traînait, et on n'imaginait pas que ça s'arrêterait. Je crois que c'est ça quand même la grande nouveauté, c'est qu'on n'imaginait pas que ça s'arrêterait. Ce qui est paradoxal, c'est que une part non négligeable des victoires de la médecine, en fait, ne réside pas dans une guérison au sens de la fin de la maladie, de la fermeture de la parenthèse, mais en la chronicisation, puisque la médecine a transformé en maladie chronique des maladies qui étaient mortelles jusqu'à une date récente. Exemple sida, exemple d'une certaine manière le cancer. Des gens peuvent vivre des années, voire des dizaines d'années, avec ces maladies qui, dans un premier temps, étaient mortelles en quelques mois, voire quelques années. Donc c'est assez étonnant, cette affaire-là. C'est-à-dire que on vit dans l'idée que la médecine va pouvoir arrêter la maladie, terminer cet épisode, alors qu'en fait, dans bien des cas, elle ne fait que rendre la maladie non mortelle, supportable.
Alors dans le même temps, on sent bien qu'il y a une injonction au bien-être aujourd'hui, au bonheur, à la santé, on parle beaucoup de ça. Donc difficulté, je suppose, pour ceux qui vivent, notamment ces maladies chroniques, mais les autres aussi, à se sentir bien quand justement ça ne va pas.
Ah oui, puis je crois que ce qui est assez particulier dans notre culture, c'est cette identification, comme vous venez de le faire, entre bonheur et bien-être physique. C'est-à-dire que on n'est pas d'abord dans un bonheur envisagé comme comme se conjuguant principalement avec le fait d'avoir une vie qui a du sens, par exemple, mais dans le fait d'être bien. Et d'ailleurs, tous les matins, on se dit ça va. Hein, ça va, t'es bien dans ta peau, t'es en forme, hein, t'es en forme. Enfin, c'est quand même extraordinaire, comme la forme qui est censée être un critère d'ordre physique, voire sportif. Est-ce qu'on est suffisamment en forme pour pouvoir remporter le championnat? On se pose la question tous les matins de savoir si on est en forme, comme si chaque journée était un championnat. Quoi. C'est très très fatigant tout ça.
Jean-Marie Guelette, quelle expérience faisons-nous finalement lorsque nous tombons malades, puisque c'est d'une expérience qu'il s'agit là?
Je pense qu'une grande part de l'expérience est vécue dans l'ordre du retrait de ce qui constitue notre vie habituelle, le retrait de l'activité professionnelle, par exemple, le fait de vivre du fait de la maladie à un autre rythme que ceux avec qui on travaillait, que le reste de la famille, que les voisins. Et donc, la maladie, je pense, est vécue en premier lieu comme une expérience de rupture sociale, de rupture relationnelle. Et puis, également, un retrait par rapport à des capacités, voire à des idées qu'on se fait sur ses propres capacités. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, nous vivons dans un monde de la performance, pas uniquement au plan professionnel, mais dans tous les domaines. Et quand on n'est plus au top, quand on n'est plus dans la performance ou dans la course à la performance, parce qu'on est malade, on se sent très vite déclassé, pas comme tout le monde.
Et puis il y a une sorte d'incommunicabilité quand même, il y a une solitude de celui qui est malade. On ne peut jamais se mettre vraiment à la place de l'autre.
Ah, ça, je crois que c'est vraiment essentiel hein, de considérer que la maladie en tant qu'expérience est absolument singulière, absolument unique au monde. C'est ce sujet-là qui vit cette maladie-là de cette façon. Et c'est ce qui d'ailleurs peut constituer un lieu de grande difficulté de compréhension entre le malade et son médecin, parce que le propre de la médecine, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire de réfléchir sur, à partir d'une généralisation, d'essayer par des méthodes statistiques d'avoir les idées qui soient le moins dépendantes possible de la singularité de ce patient. Et donc le médecin va trouver dans le patient une maladie qu'il connaît en général, et le patient fait l'expérience exactement inverse, c'est-à-dire qu'il vit une maladie qui pour lui est unique au monde, et c'est la seule fois de sa vie qu'il va la vivre, même si c'est une rechute, cet événement-là est unique pour lui, de cette façon-là.
Jean-Marie Guelette, que nous dit la tradition chrétienne sur notre humanité vulnérable, justement, capable de tomber malade? Ça fait partie de l'existence.
Oui, je crois qu'on peut regarder la maladie comme une des dimensions de notre condition de créature, quoi. C'est-à-dire que nous sommes limités de partout, dans le temps, nous sommes des êtres mortels, dans l'espace, contrairement à l'illusion que nous donnent tous nos petits gadgets, on peut pas être à la fois ici et ailleurs, on peut pas faire plusieurs choses à la fois, on peut, etc. Et donc, il y a aussi cette dimension-là de la maladie, on pourrait dire aussi peut-être de l'usure, vous évoquiez tout à l'heure le vieillissement. Et nous sommes pas des êtres inusables, nous sommes marqués par le temps qui passe, et je crois que la grande richesse de la tradition biblique dans ce domaine, c'est de nous dire pas de panique, c'est pas une catastrophe, quoi, puisque Dieu nous aime dans la condition où nous sommes, il est à nos côtés, on pourrait dire quoi qu'il arrive, et donc la question n'est pas de vouloir à tout prix sortir de ces limites, c'est dans cette condition de créature que Dieu nous rejoint et que Dieu nous donne de connaître la vie en sa compagnie, avec lui.
Alors vous parliez de la Bible, avec une spécificité du christianisme, la venue du Christ qui lui-même consent à la finitude. On pourrait s'interroger d'ailleurs, le Christ est-il tombé malade?
Apparemment pas. Alors là, il y a l'idée, je ne suis pas convaincu qu'il faille s'y aventurer trop. C'est l'idée du lien maladie-péché.
On aura l'occasion d'y revenir.
Oui, parce que je pense que c'est une des grandes ruptures, justement, du christianisme par rapport à la tradition qui l'a précédée. C'est de dire, enfin, on voit bien dans le, par exemple, l'épisode de l'aveugle-né, la prise d'opposition claire de Jésus pour dire, il n'y a pas un lien de causalité immédiate entre maladie et péché.
Mais sur la finitude, pourquoi Dieu choisit-il d'épouser finalement notre corps limité, puisque c'est ce qui va se passer avec le Christ?
Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Il faut que vous invitiez Dieu au halte spirituel. Ça intéressera vos auditeurs. Mais je crois que oui, il faut laisser cette question-là ouverte. Il faut se laisser dérouter par le salut. En effet, vous et moi, si on nous avait demandé d'inventer le salut, on n'aurait pas inventé l'incarnation, c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc complètement déroutant pour la pensée que Dieu se, enfin, le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait mortel. Un truc, en tout cas pour la philosophie grecque, c'est totalement impensable et ça rend les chrétiens inaudibles, on pourrait dire, dans la culture grecque.
Et encore aujourd'hui, d'autant plus avec ce qu'on a dit sur la culture de la performance et de la réussite.
Bien sûr.
Donc, c'est l'échec apparent là de Dieu.
Donc je pense que ça fait vraiment partie de la vie spirituelle chrétienne, de la contemplation du cœur du mystère chrétien, que d'être là à prendre le manteau en deux mains, à dire mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu est venu dans notre finitude? Et de surtout pas se précipiter pour dire j'ai la réponse, enfin de contempler cet immense mystère qui est un immense mystère d'amour, je pense. Hein. Il a voulu partager notre condition comme on aime partager la vie de ceux qu'on aime.
Nous poursuivrons avec vous, Jean-Marie Guelette. Merci.